Jean-Pierre Gaillard.
La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés, sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique bourse, 35 centimes d'euros la minute, ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
Il y a des courses cet après-midi à Saint-Cloud, nous avons déjà l'arrivée de la première course, 7 As et 2, je répète, l'arrivée de la première, 7 As et 2. Il est 14h03, vous écoutez France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui 5 juillet 1816, un des plus grands drames de l'histoire maritime, le radeau de la Méduse.
Être près de la terre et ne pouvoir l'atteindre, flotter et ne pouvoir voguer, être muré entre le ciel et l'océan, avoir sur soi l'infini comme un cachot. Le naufrage, c'est l'idéal de l'impuissance. Victor Hugo.
D'histoire. Quelque part au large de la Mauritanie, enfouie sous le sable et la vase du banc d'Arguin, on ne voit plus l'épave de la Méduse. Et on ne parlerait peut-être plus de ce bateau si au début du 19e siècle, Géricault n'avait peint ce qui fut, avec le naufrage du Titanic, un des plus grands drames de l'histoire de la mer, les quelques mètres carrés d'un radeau sur lequel, pendant 2 semaines, les rescapés de la Méduse ont vécu un véritable enfer. À l'origine de cette tragédie, l'incompétence d'un officier de marine, Hugues Duroy de Chaumaret, qui quelques mois après la chute du Premier Empire, avait reçu l'ordre de partir en Afrique pour y rétablir l'autorité de Louis XVIII sur les comptoirs français du Sénégal.
Messieurs, vous porterez le pavillon du roi dans les établissements que la marine et le commerce n'auraient point recouvré si l'auguste famille des Bourbons n'avait pas retrouvé le trône de France. Vous aurez donc l'occasion, sous mes ordres, de prouver votre reconnaissance et votre dévouement à Sa Majesté.
Ce 17 juin 1816, le temps était beau et la mer calme.
Serge Sautreau, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était le départ de la Méduse quittant la France le 17 juin 1816 à destination de l'Afrique où elle allait faire naufrage. Une tragédie que l'on retrouve dans un livre que vous avez écrit chez Hermé, Les naufrages, histoire et rituel. Alors des naufrages, il y en a eu beaucoup hein, dans l'histoire de la mer et parfois d'ailleurs de beaucoup plus meurtriers que celui de la Méduse. Mmh. On sait qu'il y a un an, à peu près d'ailleurs, pas très loin de l'endroit où la Méduse s'est échouée, il y a eu le Jola, il y a eu 1800 morts, c'est-à-dire je crois 6 ou 7 fois plus que la Méduse. Qu'est-ce qui fait du radeau, enfin du naufrage d'abord du bateau, puis de ce radeau de la Méduse, un des naufrages les plus connus, les plus célèbres de l'histoire avec le Titanic? Qu'est-ce que c'est le fameux tableau de Géricault?
Le tableau de Géricault y est sans doute pour beaucoup, bien qu'il intervienne 3 ans après, mais il intervient sur un fond de scandale politique suscité par ce naufrage lui-même. Et ce que ce naufrage a d'exemplaire, en quelque sorte, c'est que on a d'une part un naufrage dû à l'incompétence des hommes et non pas au déchaînement des éléments. Et puis d'autre part, une fois le naufrage accompli, c'est-à-dire dans ce cas-ci, un bateau échoué sur un haut fond, voilà que cette histoire en libère plusieurs autres. C'est-à-dire on a plusieurs queues de naufrage comme il y a des queues de comètes.
Quand vous dites l'incompétence des hommes, c'est surtout le commandant hein, du roi de Chaumaret. J'ai été suffoqué en vous lisant. Parce que quand on voit le tableau de Géricault, on ne sait pas tout ce qu'il y a eu derrière, tout ce qui s'est passé avant ce naufrage. Mais le commandant de la Méduse, d'abord il commande une expédition. Hein, il y a 4 bateaux qui vont à destination du Sénégal parce que pendant la Révolution et l'Empire, les Anglais en avaient profité pour occuper le Sénégal. Donc on vient les récupérer puisque l'Empire est terminé. Et puis alors ce commandant du roi de Chaumaret, qui était royaliste, un ardent royaliste, n'avait pas mis les pieds sur un bateau depuis 25 ans.
Oui, 26 même. C'est-à-dire que notre homme, d'emblée, lorsqu'il a intrigué pour obtenir ce poste la direction de cette flotte, a fait valoir d'emblée que il invoquait d'abord son pur zèle pour le roi plutôt que ses faibles compétences.
C'est intriguant, en fait.
C'était quasiment un aveu de faillite préalable. Et il est vrai que l'incompétence de cet homme était redoublée par son arrogance, sa suffisance. Il se prenait, à juste titre, formellement parlant, pour le représentant du roi à bord, ce qui avait pour conséquence qu'il méprisait tout son équipage, lequel équipage était lui de la génération de la Révolution, et donc composé de jacobins, de républicains, de bonapartistes. Bien entendu, le commandant les méprisait.
Et tout ça embarqué pour un voyage dangereux, hein, surtout le long de l'Afrique, lorsqu'après avoir passé le Cap Blanc, un banc de sable oblige les navigateurs à s'écarter de la côte.
Mais pourquoi ce détour ? Ça nous rallonge, considérablement.
Le banc d'Arguin.
Le banc d'Arguin ?
Le banc d'Arguin, des bancs de sable, au large du Sénégal.
Je n'en vois aucune trace sur ma carte.
Non, mais ils existent. Ils sont redoutables. Ils sont à fleur d'eau. On dit même qu'ils changent de place au gré des saisons pour attirer les navires. Je vais vous faire un aveu. Je les ai sans cesse à l'esprit depuis notre départ. Comme si nous avancions sur eux, droit sur eux. Un vrai cauchemar.
C'est Jean-Yann dans le rôle du capitaine de la Méduse, un capitaine qui, dès le début, Serge Sautreau, montre son incompétence, hein, dès le départ.
Ah oui, lorsqu'il fait le point, par exemple, il fait une erreur d'un degré dans son estimation, ce qui fait quand même 111 kilomètres.
Pour aller à Madère,
c'est ça. Voilà, donc là, on voit que techniquement, il n'est pas du tout à la hauteur. Il y a un premier incident, il y a un mousse qui tombe du navire, on envoie vaguement un canot, on ne cherche pas très longtemps, et le mousse se noie, ce qui produit tout de même d'emblée un effet assez fâcheux sur l'ensemble des passagers.
Et puis surtout, on ne sait pas qui commande, parce que il est quand même conscient de sa légèreté ou de son incompétence, hein, le Chaumaret, le commandant, oui, de la Méduse. Alors, du coup, il se défausse sur le gouverneur, puisqu'il a embarqué avec lui le futur gouverneur du Sénégal, une fois que la France a rétabli son autorité sur le Sénégal, hein, le colonel Schmaltz, et puis alors un aventurier qui devient le véritable commandant second, parce qu'il n'écoute pas, vous le disiez, ses officiers, et un certain Richefort.
Oui, et Richefort est imposé par Schmaltz. Et Schmaltz est lui-même le futur gouverneur du Sénégal. C'est un intrigant dont on ne sait pas très bien, du reste, pourquoi le ministère des Affaires étrangères français l'a promu à cette fonction. Et c'est vrai que Chaumaret s'en remet à Schmaltz, donc à ce Richefort. Et là, nous entrons tout de même dans quelque chose d'assez insensé, puisque personne, Richefort le premier, ne fera jamais la démonstration que ce Richefort avait les compétences d'un capitaine. Mais c'est lui qui va de fait gouverner le navire au grand dam des officiers républicains, notamment, qui comprennent très vite que la direction du bateau et de toute expédition est décidément entre de très mauvaises mains.
Oui, effectivement, puisque ce sont ces mains qui vont pousser le commandant de la Méduse à commettre une erreur très grave. Le 1er juillet 1816, croyant avoir passé le Cap Blanc et le banc d'Arguin, Pomaré donne l'ordre de faire cap au sud-est, vers le Sénégal.
Profondeur
130 brasses, 110 brasses, il y a une heure.
Extraordinaire, de plus en plus profond.
De plus en plus, commandant, de plus en plus.
C'est un véritable miracle. Fini nos peines. Nous l'avons doublé, le banc d'Arguin. Mais nous cap sur le Sénégal. Et vive le roi.
Vive le roi. Commandant, commandant. Monsieur Richefort, monsieur, regardez.
des algues, une merveille de la nature.
Mais monsieur, vous ne comprenez pas? Nous touchons le fond. Nous sommes perdus, monsieur.
La Méduse avance sur le banc d'Arguin.
Et le 2 juillet, donc 1816, la Méduse s'échoue donc au large des côtes africaines sur ce fameux banc d'Arguin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de tempête. La mer n'est pas démontée comme dans beaucoup de naufrages là. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est produit ce qui se produit avec Chaumaret de façon assez constante. C'est-à-dire son premier mouvement est un bon mouvement. son souci, en effet, de vouloir dépasser le banc d'Arguin, était le bon souci. Le problème, c'est qu'il ne suit pas son premier mouvement, et puis surtout qu'il n'assure pas non plus ses arrières, par exemple. Pour reconnaître le banc d'Arguin, il fallait déjà avoir avec certitude franchi le cap blanc. Or, les erreurs, les approximations de Chaumaret pour ce qui est du calcul de sa navigation, sont telles que, bien entendu, personne n'a vu le fameux cap blanc. Et lorsque, le lendemain matin, donc le 1er juillet, quelqu'un dit « Ah, mais vers 8 heures du soir, on a dû croiser le cap blanc », Chaumaret dit « Ah bon, ce sera bien, nous avons dépassé le cap blanc, nous avons croisé le cap blanc ». Or, le cap blanc, il ne l'avait pas croisé à 8 heures du soir. Personne ne sait, du reste, quand ils l'ont croisé. Mais ce cap blanc entrevu à la nuit tombante, ou plus ou moins dans la nuit, et qui n'est pas le cap blanc, fait que Chaumaret, croyant avoir dépassé la zone dangereuse, ordonne de mettre le cap franchement sur l'Afrique. Et donc, il met le cap franchement sur le banc d'Arguin, puisqu'il est beaucoup plus au nord qu'il n'imaginait être.
Et alors là, bon, il touche le fond, hein, le bateau est immobilisé. Ils espèrent quand même que la marée va le renflouer, Serge Sautreau. Mais en même temps, quand même, ils construisent ce qui deviendra ce fameux radeau de la Méduse.
À partir du moment où la frégate s'est échouée sur le fond, il faut quand même voir que l'atmosphère à bord devient franchement chaotique. C'est-à-dire que tous les gens qui, sur le bateau, contestaient plus ou moins sourdement la manière dont ce bateau était dirigé, vont le faire savoir un peu plus bruyamment. Et la seule façon de maintenir un tant soit peu de cohérence parmi tous ces gens, ça a été justement de construire ce radeau, ça a occupé tout le monde. Alors, l'idée, il y avait plusieurs possibilités. L'une des idées, qui sans doute n'aurait pas été mauvaise si elle avait été appliquée, était que le radeau devait servir à entreposer toutes les vivres et, au cas où la mer deviendrait très mauvaise. Et puis, on pourrait y mettre des gens qui pourraient rester là, et puis éventuellement on aurait pu venir les chercher de la terre après avoir envoyé les canaux.
Parce que la terre n'est pas loin. Hein.
La terre n'est pas très loin. On le verra tout à l'heure. Il leur faudra une journée de navigation à la rame.
À certains d'entre eux, hein, pas
à certains,
radeau,
mais... à trois seulement des chaloupes sur les six qui ont pu partir. Mais ce qui s'est produit, c'est que ce scénario-là n'a pas été respecté du tout et qu'on a opté pour un autre.
Alors, si on construit un radeau aussi, c'est parce que il y a 362 personnes à bord de la Méduse et qu'il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde. Donc, on construit un radeau supplémentaire, hein, dans lequel on va faire entrer 147 personnes. Et là, ce qui se passe, c'est que évidemment, il faut choisir qui ira dans les canaux avec des rames et qui ira sur ce radeau qui est totalement ingouvernable. Et là, c'est d'où cette liste terrible qui a été rédigée, je crois, par le colonel Schmalz, le futur gouverneur du Sénégal, et qui va décider du sort des naufragés selon qu'ils seront donc sur les canaux ou sur le radeau.
Voici la liste de ceux qui seront sur le radeau et ceux qui partiront dans les canaux de sauvetage. C'est une liste véritablement équitable. Bien entendu, j'ai tenu compte de tout, du rang, du dévouement, mais aussi des qualités individuelles, bien entendu.
Allez, Perrault sur le radeau, Rivière, Demenec, Perrier, vite, vite, Boulard, Frémont, descendez, vous m'entendez, descendez, Gémier, Berthaud, Le Guen, Rossetti, sur le radeau.
Alors c'est terrible, hein, cette liste, parce que au fond c'est en fonction du choix qui a été fait sur cette liste que les gens vont survivre ou non au naufrage de la Méduse, Serge Sautreau.
Ah, c'est une véritable liste de ségrégation. Il est clair que sur le radeau, vous avez essentiellement des soldats, les sans grade, les passagers sans noblesse, sans titre de noblesse,
une
et
femme
puis
aussi.
Une femme qui est la cantinière, et puis vous avez au centre du radeau, aux meilleures places, celles qui sont le moins exposées aux vagues, vous avez les quelques notables, vous avez un officier qui lui a été placé là parce qu'il était blessé depuis le départ, et que de surcroît il était républicain, donc il pouvait échouer sur le radeau. Et puis vous aviez Coréard et Savigny, qui vont être les deux personnages qui font la relation la plus connue de ce naufrage. Mais ce qui se produit. Alors, ce canot et lui-même, donc tous les gens qui sont sur ce canot sont les victimes de cette liste de ségrégation établie.
Les radeaux, vous voulez dire ?
Sur le radeau.
Le radeau, hein, parce que les canaux, sûr, sur le radeau, ils vont s'en tirer. Oui.
Ah oui, non. Oui. Sur ce fameux radeau, ces gens sont des victimes d'une liste vraiment ségrégationniste. Et en plus, sur le radeau lui-même, vous allez avoir une autre ségrégation qui va intervenir ensuite.
Alors, justement, on décide d'embarquer. Il y a 17 personnes qui sont restées à bord et ils se doutaient un peu de ce qui allait se passer.
Ils ne voulaient courir aucun risque.
Les retrouvera 52 jours plus tard, on n'en trouvera que 3 sur les 17. Et puis tout le monde quitte le bateau, donc le 5 juillet. Initialement, le radeau devait être remorqué par les canots. Et tout de suite, on se demande ce qui s'est passé. L'amarron et le commandant Pomaret décide, ou je ne sais pas qui, décide d'abandonner le radeau à son sort.
Ben, il semblerait qu'il y a un dialogue qui est donné par l'un des naufragés, qui est le lieutenant Rang, qui lui a entendu très clairement Chaumaret. Alors, les amarres, les filins qui relient les canaux au radeau lâchent. Là, le dialogue entre Chaumaret et Reynaud, son second, Chaumaret demandant que se passe-t-il, l'autre répond les filins lâches, Chaumaret, qui ne gouverne plus rien, dit que faisons-nous, et Reynaud répond nous les abandonnons. Et ce nous les abandonnons sonne comme une condamnation à mort.
Et le radeau reste donc livré à lui-même, totalement ingouvernable, et avec à bord 147 personnes, sur un radeau de 20 mètres sur 7, vous le dites, Serge Sautreau, soit 1 mètre carré par personne, 147 naufragés prêts à tout pour survivre.
Donne-nous ce tonneau !
Vous avez déjà eu votre ration. C'est inadmissible.
Ce tonneau est à nous, monsieur.
Il faut nous le rendre. Pas une goutte de vin jusqu'à demain.
Donne-nous ce tonneau !
Je vous ai déjà dit que c'était impossible.
Du vin, monsieur, du vin !
Vous ne toucherez pas ce tonneau.
Nos mères salées ! Soif ! Oui ! Tue-le !
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, le radeau de la Méduse.
Et une chanson tirée du film de Azimi, Le radeau de la Méduse, sur lequel donc pendant 15 jours, les rescapés ont vécu un véritable enfer. 15 d'entre eux seulement ont survécu et certains d'entre eux ont raconté leur calvaire. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, deux rescapés du radeau de la Méduse, Savigny et Coréard, ont écrit leurs mésaventures plus tard. Alors pour eux, il ne fait aucun doute que le radeau a bel et bien été volontairement abandonné. Après le départ des embarcations, nous jurâmes tous de nous venger si nous avions le bonheur un jour de regagner la côte. Puis, de la consternation profonde, les matelots et soldats se livrèrent au désespoir. Tous voyaient leur perte infaillible. Alors arrive l'heure du premier repas sur le radeau. Nous mêlâmes notre pâte de biscuits marinée avec un peu de vin et nous la distribuâmes ainsi préparée. Tel fut notre premier repas et le meilleur que nous fîmes pendant tout notre séjour sur le radeau. Or, la première nuit, le temps est très mauvais. Des vagues extrêmement grosses déferlaient sur nous et nous renversaient. Les cris des hommes se mêlaient au bruit des flots. Nous fûmes obligés de nous tenir au centre du radeau. Ceux qui ne purent le gagner périrent presque tous. Au matin, quel spectacle s'offrit à nos yeux. 10 ou 12 malheureux, les jambes prises dans les séparations du radeau, avaient perdu la vie. Plusieurs autres avaient été enlevés par la violence de la mer. Alors, la deuxième nuit, une autre catastrophe arrive. C'est une révolte qui éclate. Ils manifestèrent l'intention de se défaire des chefs. L'un d'eux s'avança sur le radeau, une hache à la main, et commença à frapper sur les liens. Un coup de sabre termina son existence. Le style est un peu fleuri. Puis le combat devient général, ils nous attaquèrent, nous les chargeâmes à notre tour. Au milieu de cette démence, on vit des infortunés courir sur leurs compagnons et leur demander une aile de poulet et du pain ou un hamac pour se reposer. Certains voyaient des navires et les appelaient au secours. Le lendemain, nous trouvâmes que 60 à 65 hommes avaient péri pendant la nuit. Alors, les naufragés essayent de pêcher pour se nourrir, mais en vain, ils n'y arrivent pas. Alors, écrivent avec honte les deux rescapés, des hommes se précipitent précipitèrent sur les cadavres dont le radeau était couvert, les coupèrent en par tranches et quelques-uns même les dévorèrent à l'instant. Voyant que cette affreuse nourriture avait relevé leurs forces, on proposa de la faire sécher pour rendre son goût un peu plus supportable. Et comme ils n'ont presque plus d'eau, les survivants les plus vaillants, les plus forts, décident, pour assurer leur survie, de se débarrasser des plus faibles. On délibéra. Mettre les malades à demi-ration, c'eût été leur donner la mort de suite. Après une délibération présidée par le plus affreux désespoir, il fut décidé qu'on les jetterait à la mer. Ce sacrifice pénible sauva les 15 qui restaient. En effet, 6 jours plus tard, quand le radeau de la Méduse est repéré et secouru, des 147 naufragés, ne reste que 15 survivants.
C'est effrayant, Serge Sautreau, vous le faites récit dans ce livre, ce qu'ont vécu donc pendant 15 jours les gens qui étaient sur ce radeau, le désespoir, au point d'ailleurs que certains se suicidaient, des mutineries, on se battait sur un périmètre minuscule, au début 147 personnes, plus que 15 à la fin, la soif, la faim, au point de s'entretenir. Dévorer.
Oui, avec les hallucinations, avec surtout les nuits. Ce qui était terrible, c'était les nuits. Les moments dangereux, c'était les moments d'obscurité. Les fameuses révoltes dont Coréard et Savigny parlent, il faut tout de même en éclairer un peu la teneur. Il faut voir que Coréard, Savigny, Coudin, les quelques notables, les seuls armés sur ce radeau, retranché au centre du radeau et qui contrôlait l'approvisionnement, c'est-à-dire les biscuits au début, puis ensuite les barriques de vin, c'est tout ce qui est resté. Ces gens-là ont délibérément organisé une séance de libation, de soûlerie générale, c'est-à-dire que on a délibérément alcoolisé à forte dose l'ensemble des occupants du radeau et on s'est fait de la place.
C'est affreux.
On a inventé ce prétexte d'une mutinerie ou de gens qui devenaient complètement fous au point de vouloir offrir le radeau en holocauste à la mer. Donc il s'agissait de détruire le radeau et que tout le monde disparaisse. Et bien entendu, les gens sérieux et raisonnables, c'est-à-dire Coréard et Savigny, entre autres, ont décidé que ce délire-là n'était pas permis. Et donc ils l'ont empêché à coup de sabre. Et on a là le spectacle très, très, très inquiétant de gens civilisés, de gens cultivés. Les notables qui se font de la place là, sur le radeau, ce sont les gens cultivés du radeau. On pourrait dire les bourgeois du radeau, ouais. Qui soudain se comportent comme les pires des barbares. Mais des barbares organisés qui fomentent une pseudo-mutinerie pour avoir un bon prétexte pour se faire de la place.
Et il y aura 15 survivants seulement qu'on va récupérer donc
15 survivants. Tous du même bord, bien sûr. Et puis d'ailleurs, sur les 15, 5 vont mourir, à peine auront-ils été récupérés, ils vont mourir à l'hôpital.
Et pendant ce temps-là, alors les gens des canots sont arrivés sur la côte. Ils ont mis un jour à peine pour arriver sur la côte, parce qu'elle était tout près.
Oui, ils ont navigué à 10 heures du soir. Les 3 canots principaux, ceux où il y avait le commandant, celui où il y avait Schmaltz, ont en effet retrouvé le reste de la flotte. Ce qu'il faut dire là aussi, c'est un petit détail, mais ça montre bien qui était ce pauvre Chaumaret. Chaumaret, commandant de cette flotte, avait eu l'ingénuité, l'enfantillage, disons, de vouloir être toujours le premier en tête. Une fois le navire bloqué et les canots, il voulait être le premier à arriver sur les côtes à bord d'un canot. Et donc, les 6 canots qui devaient rester ensemble ne vont pas rester ensemble. Donc, 3 des canots, eux, vont avoir un sort beaucoup plus difficile que les 3 canots les mieux équipés.
Et Chaumaret, évidemment, atteint la côte, arrive à Saint-Louis du Sénégal, et là, le scandale est tel quand il est connu en France, qu'il reçoit l'ordre de rentrer, justement, en France, pour être jugé à Rochefort par le Conseil de guerre, le 3 mars 1817.
Et la Méduse était une frégate en détresse.
Pire, c'était une frégate échouée!
Alors, pourquoi, vous, le commandant, avez-vous quitté la frégate avant votre équipage?
Le verdict. Pour l'abandon du radeau, M. Duroy de Chaumaret est déclaré non coupable. Pour l'échouage de la Méduse, M. Duroy de Chaumaret est déclaré coupable. Condamné à être cassé de son grade et déclaré inapte au service. Pour tous ces motifs, il est condamné à 3 ans de prison militaire en tel lieu qu'il plaira à sa majesté d'ordre.
C'était le verdict du conseil de guerre de Rochefort le 3 mars 1817. Finalement, on a été plus sévère pour l'incompétence que pour la lâcheté. Hein.
Oui, et ça illustre aussi un autre point qui est resté obscur, c'est-à-dire qui porte vraiment la responsabilité de l'abandon du radeau. Évidemment, c'est Chaumaret en tant que commandant. Mais de fait, il semble bien que la décision ait été prise par Reynaud, son second, qui était un homme dont le rôle a été assez trouble, parce que l'erreur initiale, la non-reconnaissance du Cap Blanc, il porte aussi une responsabilité là-dedans. C'est lui qui dit « nous les abandonnons ». Et ce même Reynaud, qui était un ardent républicain, ne va tout de même pas hésiter, après le naufrage, à réclamer une décoration royale.
Est-ce que Chaumaret, lui, va mourir 25 ans plus tard? Il fait ses 3 ans de prison au Fort de Havre. Il va mourir 25 ans plus tard, harcelé par tous les... Il était dans le Limousin, par tous les gens des villages alentours, évidemment, qui ne supportaient pas ce personnage qui a voulu être réhabilité jusqu'à la dernière minute. Oui. Merci Serge Sautrant, en tout cas, de nous avoir rappelé ce naufrage de la Méduse et l'aventure des rescapés sur le célèbre radeau de la Méduse, que l'on retrouve, une histoire que l'on retrouve, donc, dans un beau livre édité chez Hermé, Les Naufrages, dans lequel donc il y a entre autres le naufrage de la Méduse. Vous avez pu entendre des extraits du film d'Azimi, Le Radeau de la Méduse, avec Jean Yann dans le rôle du commandant de Chaumaret. Ce film est d'ailleurs diffusé cette semaine sur la chaîne câblée TPS Cinéculte, tout à l'heure à 18h30 et vendredi à 0h donc sur TPS Cinéculte. Sachez aussi que la chaîne Histoire diffuse cette semaine un documentaire à ne pas rater, dont nous avons beaucoup parlé la semaine dernière dans l'émission sur le cinéma et la propagande. Il s'agit d'une série de films de Franck Capra, Pourquoi nous combattons, des films qui sont diffusés tous les soirs en ce moment à 21h sur la chaîne Histoire. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Lydwin Caron et Olivier Daligo, documentation Virginie Bloch-Lenné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la présentation d'un plan gouvernemental en faveur des personnes âgées, un sujet de circonstance, la vieillesse. Mais d'abord, à 14h30, la fontaine de jouvence de France Inter, Chris. Bonjour Chris.